La grasse matinée est-elle bonne pour la santé le week-end? Question épineuse aujourd'hui à la une de la science.
Le dimanche matin, c'est le moment rêvé pour faire la grasse matinée. Il est quelle heure?
Midi.
On dort jusqu'à ce soir?
Non.
Voilà un extrait du film À bout de souffle, Jean-Luc Godard et la grasse matinée de Jean-Paul Belmondo en 1960. Et pour parler de cette étude de grande ampleur menée en Suède sur 40 000 personnes pendant 13 ans, et des résultats qui montrent une diminution de la mortalité chez les personnes de moins de 65 ans qui dorment un peu plus le week-end que la semaine. Des conclusions qui vont légèrement à l'encontre des précédentes études sur le sujet et dont on parle avec notre invité Axel.
Oui, nous sommes par téléphone avec la psychiatre Sylvie Royan-Parola. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des pathologies du sommeil et fondatrice du réseau Morphée. Alors, on se rend compte en lisant cette étude qu'il y a un débat qui dure chez les spécialistes du sommeil concernant les bénéfices de la grasse matinée. Quels sont justement les arguments pour et les arguments contre?
En fait, il faut bien comprendre que le sommeil a deux mécanismes. Un mécanisme qui va réguler la durée. Et on a tous besoin d'une certaine durée de sommeil. Et si on dort moins, il y a des conséquences cardiaques, métaboliques, immunitaires. Et il y a un deuxième paramètre qui est le paramètre régularité des horaires qui lui aussi, plus il est régulier, plus on va être bien synchronisé avec moins de maladies cardiaques, moins de maladies métaboliques. Donc il y a ces deux paramètres à respecter. Or la grasse matinée, elle introduit une donnée qui est, on augmente le temps de sommeil, donc ce serait plutôt mieux sur le principe, mais on entraîne une rupture de rythme. Donc ça c'est plutôt moins bien. Et dans l'étude qui vient d'être faite, on voit que ce n'est pas pour tous les sujets que la grasse matinée est favorable et intéressante en point de vue de mortalité. C'est uniquement pour les gens de moins de 65 ans et qui dorment peu, voire très peu, parce que l'étude met comme limite 5 heures ou moins, ce qui n'est quand même pas le lot de toute la population. Même pour ceux qui sont privés de sommeil en semaine, c'est rarement aussi peu. Donc on voit que ces gens qui dorment très très peu, effectivement, leur système de régulation du sommeil en termes de durée est tellement malmené que le temps de sommeil qu'ils vont pouvoir récupérer le week-end les aide incontestablement.
Donc la grasse matinée, c'est une forme de rattrapage pour les mauvais élèves alors?
On peut dire ça comme ça. Par contre, l'étude montre que les gens qui dorment, je dirais 7-8 heures, enfin même c'est 7 heures précisément dans l'étude, il n'y a pas de bénéfice à faire la grasse matinée. Il n'y a pas d'inconvénient non plus, puisque ils ont aussi étudié ça dans les deux sens. Et pour ceux qui dorment beaucoup, la grasse matinée n'apporte rien de plus.
Oui, donc ça veut dire qu'il n'y a quand même aucun profil de dormeur pour lequel il est déconseillé de faire la grasse matinée.
Non, sauf à faire des ruptures de rythme qui soient avec vraiment un temps de sommeil très long, enfin ou plus long et beaucoup plus décalé le week-end, parce que là, on a des études qui montrent que là, on perturbe notablement toute la régulation circadienne et avec des conséquences à la fois sur le poids et des conséquences aussi en termes cardiovasculaires.
Sylvie Royan-Parola, donc si je comprends bien, pour récupérer de sa dette de sommeil, il vaut mieux quand même dormir de façon identique la semaine comme le week-end. Le message finalement reste à peu près le même, non?
Il reste à peu près le même sur l'ensemble de la population. En revanche, pour les gens dont, pour X raisons, le sommeil est vraiment très écourté en semaine, il vaudra mieux effectivement récupérer le week-end.
Comment savoir si on est un petit dormeur ou si on creuse notre dette de sommeil? Est-ce qu'il existe des moyens simples de le savoir?
Alors, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de test, disons, scientifique, mais il y a un moyen un peu empirique qui permet d'avoir une idée, c'est de voir ce qui se passe en situation où on est libre d'organiser son temps, donc idéalement des vacances, mais des vacances assez longues, au moins une quinzaine de jours, parce que la première semaine de vacances, on est toujours un peu dans une récupération, donc ça fausse un peu les choses. Des vacances aussi où on est libre d'organiser son temps, c'est moins facile si on a deux petits-enfants en bas âge ou des bébés. Et donc, dans d'autres conditions, où effectivement, on peut choisir un peu les horaires. On va voir si on se couche tard et on se lève tard, ou si on se couche tôt et on se lève tôt, et quelle est la durée de sommeil que l'on opte dans cette situation-là. Sachant qu'en vacances, on dort toujours un peu plus qu'en période de travail, bien sûr, on réduit d'1h30 ce temps de sommeil que l'on a estimé, on va avoir une idée de comment on pourrait bien fonctionner en situation de travail.
Est-ce que vous préconisez toujours la petite sieste, Sylvie Royan-Parola?
La petite sieste est toujours une bonne façon d'organiser les 24 heures pour mettre un petit point d'orgue de repos, de récupération, et sans qu'elle soit bien sûr de durée trop importante, parce que sinon à ce moment-là, le sommeil de nuit pourrait être modifié.
On a beaucoup parlé de la grasse matinée depuis le début. C'est une étude importante quand même, 40 000 personnes sur 13 ans et des données sur leur sommeil. Est-ce qu'il y a d'autres résultats importants que vous voyez dans ces travaux suédois ?
Alors, il confirme une autre chose qu'on savait déjà depuis longtemps, c'est que les très courts dormeurs ou les très longs dormeurs, c'est-à-dire les gens qui dorment 5 heures ou moins ou ceux qui dorment de 9 heures ou plus, vont avoir un risque de mortalité beaucoup plus grande. Donc en fait, si vous voulez, dans le sommeil, on est vraiment dans la situation où l'idéal, c'est de respecter ses besoins et de pas chercher à dormir moins, mais pas non plus à chercher à dormir plus. C'est pas la bonne solution.
Merci à vous, Sylvie Royon-Parola. Vous êtes psychiatre et fondatrice du réseau Morphée. Merci beaucoup,
merci à vous,
Axel.
Aussi,
on se retrouve demain pour une nouvelle une. Merci.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, que pensent réellement les Américains de la NASA ? Bonne nouvelle pour l'agence spatiale américaine. 72% de la population estime là-bas qu'il est essentiel que la NASA reste leader mondial de l'exploration spatiale. Mais les autres chiffres recueillis par une équipe de statisticiens américains sont encore plus optimistes, contrairement aux changements qu'aimerait apporter l'administration du président Trump à la NASA. Les Américains sont beaucoup plus conciliants avec l'idée que l'agence doit jouer un rôle clé sur le climat. 62% des personnes interrogées. Plutôt que d'envoyer des astronautes sur la Lune, ça n'intéresse que 13% des Américains, ou sur Mars, 18%. Les légumes pourraient devenir plus rares partout dans le monde avec le réchauffement climatique. C'est ce qu'annonce l'Académie américaine des sciences dans son dernier compte-rendu. À moins que de nouvelles formes émergent et que des variétés de légumes ne soient plus résistantes aux variations climatiques, 31% des récoltes de légumes devraient disparaître d'ici 2100. Dans le cas où la température mondiale augmente de 4 degrés Celsius, le scénario le plus pessimiste. Et puis les chiens sont les meilleurs amis de l'homme, mais peut-être même de la nature. Une équipe de l'Université de Floride a eu l'idée d'entraîner des chiens de berger à détecter la présence d'un champignon nocif sur les avocatiers. Une expérience réussie avec brio puisque les chiens signalent les arbres infectés en quelques secondes, alors même que les symptômes de la maladie ne sont pas visibles par l'homme. Une étude qui devrait intéresser de nombreux agriculteurs.